remis toujours les pendules à l'heure pour ramener les croyants vers le centre de leur être pour suivre la vérité. Bon, elle a fait ce que le Christ a dit aussi, suivez la vérité, je suis la vérité. Et donc c'était, à chaque génération, le Seigneur envoie des prêtres, des prophètes. Il envoie une église qui vaut ce qu'elle vaut toujours, qui est chargée de, dans la continuation historique, de transmettre l'évangile du Christ tel qu'il a été. Donc ça fait 20 siècles que ça dure. Il y a des choses bien, puis il y a des choses moins bien, on le sait. Mais c'est dans toutes les associations comme ça, c'est aussi le cas dans les associations qui se construisent pour faire perdurer le message d'amour du Christ. Alors aujourd'hui, bon, la Sainte Vierge, vous savez qui c'est, vous êtes suffisamment informé sur la Sainte Vierge, sur l'Assomption, la Sainte Vierge qui monte au ciel avec son corps et son âme, évidemment. Ce privilège qui est dû au fait que la Sainte Vierge, n'ayant jamais péché, elle ne pouvait pas connaître la mort. C'est la nouvelle Ève. Ève est morte à cause de son péché. Et la Sainte Vierge, eh bien, elle est vraiment la figuration de ceux qui ne pêchent pas. Et donc, la gloire de Christ est sur elle, c'est-à-dire le salut est sur la Sainte Vierge. Bonjour, la Sainte Vierge. Alors, j'ai prêché la semaine dernière sur une chose, une fête importante auquel on fait rarement allusion chez nous. Je veux dire, parfois dans l'enseignement qui est propagé, c'est la transfiguration du Christ. Donc si vous savez ce que c'est la transfiguration, tout le monde ne sait pas, parce que j'ai posé 2-3 questions ce matin, et des gens avaient l'air étonnés. Le Christ va sur une montagne avec 3 apôtres, Pierre, Jacques et Jean, et qu'est-ce qu'il fait là? Ils sont en train de s'assoupir dans un coin, et tout d'un coup il se réveille, et le Christ est monté sur un petit nuage de lumière, et il se transfigure devant eux, c'est-à-dire il leur montre sa gloire. Son visage devient comme le soleil et ses vêtements deviennent blancs comme la neige. C'est-à-dire que devant ses disciples, avant la crucifixion, avant l'entrée à Jérusalem, il montre qu'il est vraiment pour fortifier leur foi. C'est une chose très merveilleuse. Et quand il descend, alors il tombe à terre, et la voix de Dieu, comme sur le Sinaï, parle « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le en qui j'ai mis ma complaisance ». Donc ils sont atterrés, et quand Dieu se met à parler avec sa voix particulière comme au Sinaï, ils sont atterrés, Jésus les rassure, ensuite il redevient ce qu'il est dans l'apparence de son humanité, et il les rassure. Alors les autres, il y a 2 personnages qui apparaissent étranges à droite et à gauche, Moïse d'un côté, et Élie, Moïse représente la loi, et Élie représente les prophètes. Alors, nous les avons toujours, nous avons la loi qui nous a été dicté dans l'Église pour savoir la dogmatique, ce qu'il faut croire, ce qu'il ne faut pas croire. Et puis on a les prophètes à génération. Donc vous avez des gens comme Yvonne, ce sont des prophètes qui sont envoyés dans le monde. Ils sont suivis, ils ne sont pas suivis, peu importe, mais ils partent. Donc vous voyez, cette histoire du prophétisme est très importante. Et donc les authentifient le Christ comme étant le Messie d'Israël. Donc c'est très intéressant. Mais qu'est-ce qui se passe ensuite? C'est ça qui est très important et qui va faire le lien avec nos icônes que nous avons ici, parce qu'on a fait des icônes qu'on va bénir aujourd'hui, donc l'image, le langage par l'image, qui est très beau et qui produit une forme de la parole qui passe par l'esthétique des images. Le Christ descend de cette montagne et il dit à Pierre, Jacques et Jean, qui sont les 3 grands apôtres, évidemment, Pierre deviendra chef pourtant à Rome, Jacques devient le premier évêque de Jérusalem, le premier grand martyr aussi, puisqu'il est... Il meurt, et Jean, vous savez, termine à Patmos avec le grand évangile de Jean qui, au commencement, était le Verbe était Dieu, le Verbe était Dieu. Donc, le fondement du christianisme exprimé d'une manière étonnante par notre ami Jean, dont je porte le prénom aussi d'ailleurs. Donc, Jésus descend, et là, il leur dit, « Si vous avez vu ma gloire, c'est pour votre fortification, pour voir, vous voyez qui je suis vraiment, mais le Fils de l'homme descend vers Jérusalem pour y être crucifié, il sera livré aux pécheurs, il sera livré, mais le 3e jour il ressuscitera, il annonce ce qu'il va faire. Et c'est très étonnant. Et donc Jean se met à pleurer parce qu'il comprend tout d'un coup que le Christ prend un chemin très étrange, il va entrer sur un âne, 40 prophéties qui annoncent la venue du Messie, dont une qui dit dans Malachie, il viendra le Seigneur entrer dans la ville, dans la gloire, monter sur un âne qui n'a jamais été monté. Alors Jésus dit à notre sera dans Jérusalem, allez chercher un petit âne que vous allez trouver qui est à côté de sa mère. Et il n'a jamais été monté. On lui donne l'âne. Jésus monte sur cet âne, correspondant à cette prophétie, d'un âne qui n'a jamais été monté. Le début du christianisme. Et la vieille ânesse suit, qui est l'ancienne église de Juifs, c'est-à-dire l'ancienne Jérusalem suit, et le Seigneur inaugure son église, mais il est dans la gloire un jour, et quelques jours après, il est crucifié, il montre le chemin par lequel il vient habiter la souffrance de l'humanité et faire descendre la justice de Dieu vers sa miséricorde. C'est un petit truc orthodoxe que je porte, là, cette balance, ce qu'on appelle la balance de la miséricorde, c'est magnifique. Tout ça pour vous dire, j'avance, j'improvise, que nous avons aujourd'hui quand même quelque chose de très proche, qui est très intéressant. Nous avons le sanctuaire de Turin. Donc vous voyez, 20 siècles après, Jésus meurt. Jésus dit, je meurs et je vais ressusciter. Et qu'est-ce qu'il laisse? Il laisse dans cette grotte, enfin dans le tombeau de Joseph d'Arimathie, il laisse le sanctuaire. Et le sanctuaire, on l'a aujourd'hui. Il a fallu 19 siècles pour comprendre que c'est un négatif d'un positif. Vous voyez, il faut attendre la photographie. Quand on vous dit que ça a été fait de main d'homme et fabriqué au Moyen-Âge, arrêtez. Il faut arrêter le délire. Il n'y a pas de pigment connu. Et il y a une brûlure de quelques microns sur ce linge si fin qui est en lin, comme vous le savez. Et on voit le visage du Christ. Donc il laisse la première icône lui-même. Dans cet testament, il dit, ne faites pas d'image. Le Seigneur donne lui-même l'image. Et qu'est-ce qu'on a? On a deux choses. On a la mort du Christ, puisque c'est quand même un crucifié que nous avons sur le sanctuaire. Et qu'est-ce que nous avons? Aussi la résurrection, comme il dit, le troisième jour, elle ressuscitera. Et nous avons cette lumière de la résurrection du Christ, c'est imprimé sur le tissu. Voilà la plus belle icône qui soit, que les orthodoxes appellent Akairopoyet, c'est-à-dire qui n'est pas fait de main d'homme. Et c'est le départ de l'iconographie au 5e siècle. Il y avait un tabou sur l'image dans l'église primitive qui était surtout faite par beaucoup de juifs d'Alexandrie, d'Antioche, et les premiers chrétiens étaient presque tous juifs. Et petit à petit, le christianisme se romanisant avec l'Empire, on a au 5e siècle découvert à Edesse le sanctuaire qu'on sort des remparts, qu'on découvre, on le montre au public, et un iconographe de ce qu'on appelle les écoles du Fayoum, qui est bien connu, vient d'Alexandrie. Il passe à Antioche, 3 heures de cheval ou de carrosse à l'époque pour aller jusqu'à Edesse. Et à Edesse, on lui montre cette image, l'évêque montre cette image. Il dit, mais si le Christ a donné son visage, on peut essayer de le reproduire quand même, puisque l'image a été faite, on peut casser le tabou de l'image. On fait cette très belle icône que vous avez à Sainte-Catherine du Sinaï depuis le 5e siècle, la très belle icône du Christ que vous connaissez, pour ceux qui connaissent un peu l'iconographie. C'est la première icône qui a été faite et elle s'est répandue dans le monde. Quand vous allez à l'église orthodoxe ou les églises aujourd'hui catholiques qui sont mis enfin à faire des icônes, on voit ce Christ et c'est le démarrage de l'iconographie. Donc c'est des siècles de travail. Et quand on regarde le sanctuaire de Turin et qu'on met en perspective, j'ai fait un article là-dessus pour Chrétien Magazine, on met en perspective cette icône du Mont Sinaï et le sanctuaire, il y a 21 points de convergence, ils se recouvrent parfaitement. L'œil est abîmé d'un côté parce que le Christ a reçu un coup de bâton. C'est très important. Donc, l'icône est très importante. Oh non, s'il vous plaît. Et alors, ça me coupe. Oui, ça va. Merci. Et alors, vous voyez, c'est très important parce qu'on a quand même ces icônes qui sont très importantes aujourd'hui. Et il y a tout un art du langage qui se produit dans l'icône depuis cette perspective de la découverte du sanctuaire. Et dans le sanctuaire, nous avons vraiment la mort du Christ qui nous est montrée dans le sanctuaire et en même temps le miracle de cette lumière qui a surgi dans un linge qui était fermé et dont le Christ est sorti parce qu'il y avait encore les bandelettes. Et je le dis souvent, la traduction de Xavier Léon Dufour, qui est un jésuite, on avait traduit toujours « les linges étaient pliés quand j'entre ». Quand Jean entre et vit et le crut, bon, très curieux, les linges étaient pliés comme si Jésus avait fait le ménage avant de sortir du tombeau pour aller voir Marie-Madeleine et sa mère, en particulier à Sainte-Vierge, puisqu'il va aussi voir à Sainte-Vierge, nous dit Maria de Porta. En réalité, les linges effondrés, ça veut dire que le sanctuaire était resté, c'était effondré avec les bandelettes autour. Donc, vous voyez que le Christ, il vit et il crut à cause de ça. Il voit que le Christ est sorti sans briser les liens. Et donc, les linges effondrés et tout le sanctuaire, toute cette partie du sanctuaire vient à nous. Au 19e siècle, la première photographie, Niepce, et on comprend que ce négatif qu'on lisait assez mal devient un positif. Vous avez l'admirable visage du Christ qui corrobore quand même qui était près de l'iconographie de ce que nous avons dans nos icônes. Depuis, la première icône qui a été faite à partir du sanctuaire à Edesse au 5e siècle et qui a parcouru toute l'histoire des églises, en particulier les églises orientales qui ont fait beaucoup d'icônes. Alors ici, nous avons deux icônes, celle de Corinne et celle de Sylvie, sont très belles, vous voyez. Pas tout à fait finies, il y a une qui sèche encore, donc il ne faut pas la toucher. Et une qui manque encore quelques traits de lumière, qui sont les dernières touches de lumière qu'on met dans la prière pour éclairer l'icône. Elles sont admirables, donc je vais les bénir. Alors, on ne peut pas les bénir avec l'eau puisqu'elles ne sont pas encore vernies, mais on va contourner l'affaire. Jésus-Christ vient sur l'autel au moment de la consécration et c'est Jésus lui-même qui va les bénir et donc je ferai toucher le corps de Jésus-Christ à ces icônes et il les bénit lui-même. Et il est mieux placé que moi pour le faire, comme vous pouvez l'imaginer. Donc voilà, je vous remercie. Je remercie beaucoup parce que c'est... Regardez comme l'autel est beau avec toutes ces icônes. Il y a la vieille icône évidemment de Cross, mais celle-ci est très belle et celle-ci est admirable aussi. Donc voyez, on a quand même des trésors. Tout ça, c'est parti du sanctuaire de Turin. Le cassage, on a cassé l'image. Alors les musulmans sont venus derrière, on dit « Ah non, il ne faut pas faire des images ». Donc le Mohammed est resté sur les vieilles affaires avec ce qu'on appelait la querelle des images, qui a été où un concile décide que les images, on peut les faire. On s'est beaucoup posé la question de savoir si on pouvait faire des images. Ce qui a alimenté la théologie en faveur de l'image, c'est le sanctuaire. On avait le visage du Christ et le corps du Christ entier. Ouais, donc c'est admirable. Nous devons voir que ce qui est annoncé là, c'est la mort et la résurrection du Christ. Et donc le miracle que les apôtres ont cru, évidemment, parce qu'eux, ils ont vu le Christ qui est venu à eux, Marie-Madeleine, la Sainte Vierge. Mais nous, ça ne vient pas nous donner la preuve de la résurrection. Sinon, il n'y a plus la foi. Donc ça alimente simplement le fait que nous soyons bien raisonnables de croire à la résurrection du Christ et le Seigneur nous envoie un petit peu d'aide pour alimenter notre foi. Voilà, et c'est les miracles. Je dis toujours, nous sommes l'église du miracle. Là où il n'y a pas de miracle, il n'y a pas l'église du Christ. Et plus l'âme se purifie, c'est pour ça que nous vénérons, nous les saints, la Sainte Vierge, évidemment tous les miracles de la Sainte Vierge, les miracles des saints, parce que ceux qui suivent le chemin du Christ, ce qu'a dit Yvonne tout à l'heure, hein, ceux qui vont sur leur plexus et qui coïncident à leur vérité profonde et qui font le travail de Dieu, ceux-là sont mes amis. Et le Christ donne donc la puissance qu'il a donnée aux apôtres pour parcourir le monde, n'enlève pas leur souffrance, ils sont tous morts zigouillés, comme vous le savez, donc des martyrs. Martyr en grec, ça veut dire le témoin. Et qui sont les témoins dans la souffrance que eux-mêmes ont habité la souffrance du monde et le Christ habitait leur souffrance pour la gloire. Ça veut dire que les enjeux véritables, nous sommes ici de passage, que nous sommes là pour un certain temps et qu'on nous demandera ce que nous avons fait, est-ce que nous avons coïncidé, mais vraiment très exactement, la vérité de notre plexus, c'est-à-dire ce qui se passe à l'intérieur de cette vérité que vient dans notre conscience, et le courage que nous aurons mis à coïncider à cette vérité. C'est pour ça qu'il y a des pécheurs qui seront mieux placés que des gens clairvoyants qui auront été alimentés. Ceux qui auront reçu, il vous sera demandé selon ce que vous aurez reçu. Ceux qui ont reçu la vérité pleine et entière, on dira, « Ah bon, vous aviez reçu la vérité, qu'est-ce que vous en avez fait ?» Et d'autres ont reçu moins de conscience, mais ils sont gentils. Et le Seigneur nous dira à ce moment-là, « Vous voyez, celui-là, il était un peu pégote, mais il a suivi quand même sa conscience avec moins de clarté que la vôtre. Et pourquoi toi tu as dérogé ce que le Seigneur nous dit, bienheureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Vous voyez les paroles d'Yvonne importantes tout à l'heure. Coïncidons à cette vérité de notre conscience et faisons le travail. Parce que ce n'est pas simplement la clairvoyance de la vérité qui sauve. La vérité sauve, mais elle sauve à condition qu'ils aient les œuvres. Même Luther qui a dit sola fide, seule la foi sauve, il reconnaît lui-même dans un écrit, il ne dit pas que Seule la foi sauve, il dit, la foi sauve, mais dans le but, pas par les œuvres, pour les œuvres. Il dit ça vraiment, et c'est intéressant parce que nous ne sommes pas sauvés par nos œuvres parce que nous n'avons pas de mérite, sinon le mérite de la grâce du Christ, mais nous sommes sauvés par le Christ pour les œuvres. C'est-à-dire que nous sommes faits pour travailler à la vigne du Seigneur et faire grandir l'amour de Dieu parmi nos frères, déjà en nous, et proclamer l'évangile du Christ, c'est-à-dire la bonne nouvelle du Christ dans l'amour que nous donnons à nos frères et aussi à Dieu, parce que sans avoir l'amour de Dieu, il est difficile vraiment d'aimer ses frères. Vous voyez, le monde marche curieusement aujourd'hui. Chaque année, on le dit, mais ça se va toujours pareil. Nous, nous sommes chargés d'une mission, et donc cette mission, c'est la mission de la Sainte Vierge. J'ai une très belle icône de la Dormition de la Vierge que j'ai trouvée l'autre jour dans une brocante. Elle est très belle et elle était vraiment pour rien, donc je l'ai prise. Mais la Vierge est couchée admirablement sur son lit et elle est en train de se lever comme ça de 30 à 30 ou 40 degrés parce que c'est là qu'elle commence à monter vers le ciel. Mais elle a fait le boulot. Elle a fait le boulot. Habitée par la grâce, vous voyez le texte admirable. Quand elle va voir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir sa cousine Élisabeth et le miracle s'opère. Jean le Baptiste, celui qui va être le précurseur, il tressaille de joie à l'approche du Sauveur qui vient dans le ventre de la Vierge. Donc c'est très important. Et là, la Vierge fait le boulot. C'est par cette grande humilité que le Seigneur est descendu avec l'Esprit, à l'Esprit Saint pour la conception de Jésus. Ouais, donc c'est très important. Le boulot. Alors la foi, certainement, à Sainte Vierge, la foi, tu es bienheureuse, toi qui as cru que l'ange Gabriel te portait la bonne nouvelle, mais l'humilité et le travail de Marie, moi je l'appelle Notre-Dame des Fagots, parce que tous les matins, la Sainte Vierge faisait le pain, et donc elle allait chercher le petit bois, comme Bernadette Soubirous le faisait à Lourdes, dans la grotte où elle est allée, chercher le bois, faire le pain, faire les foies au miel que Jésus aimait beaucoup, nous dit Maria Valtorta, mais nourrir cet enfant. Et la Sainte Vierge l'allongeait comme on allonge nos petits bébés et nos enfants. Donc vous voyez, elle a fait le boulot. Et le cycle de 33 ans s'est accompli. Et le message du salut est parti dans le monde. Et il arrive chez nous à travers une église, certainement, qui a pendant 20 siècles. Il ne faut pas mépriser l'église. Pendant 20 siècles, elle tient le boulot quand même. Hein. Les curés vont se faire tuer. Ils travaillent la vigne avec plus ou moins de bonheur. Et puis les prophètes, c'est-à-dire ceux qui, encore à notre époque, nous ont annoncé la bonne nouvelle, nous ont dit, voyez, vous verrez un jour, les gens vous reconnaîtront comme étant ceux qui portent. Le monde ne reconnaît rien, Jésus lui-même n'est pas reconnu parmi les siens, mais dans l'invisible, les saints et les anges, le Seigneur lui-même opère la grâce dans la conscience qui nous a été ouverte, dans le plexus, comme dit notre ami Yvonne tout à l'heure, et elle attend de nous que nous coïncidions à cette conscience, par le travail que vous faites, que nous faisons tous, par nos prières et les œuvres de charité que nous essayons de faire dans nos vies chrétiennes, grâce à ça. Remercions le ciel pour avoir eu une église dont le père de Loisier a dit, ils ont eu l'église, on attendait l'évangile, mais on a eu l'église. Oui, on a eu quand même l'église qui a porté le message, et nous avons eu les prophètes. Puissons-nous être dignes de leur amitié, de ce qu'ils nous ont annoncé pendant les années où ils ont été parmi nous, et qui sont repartis vers le bon Dieu, ils ont lancé les messages prophétiques. C'était le message qu'il y avait sur le sanctuaire de Turin. Un mort et une lumière de résurrection. Ils sont toujours les témoins, ces prêtres et ces prophètes de cette époque où le Christ est venu il y a 2000 ans. Et nous avons aujourd'hui encore le miracle de la Sainte Eucharistie où le Seigneur vient parmi nous pour nous dire « Je suis là, avec vous jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que je revienne. » Et c'est ça le fondement même du ciment de l'amour de Dieu qui se répand dans le monde à travers tous ceux qui le reçoivent dans une âme pure, c'est-à-dire une âme qui est prête au repentir, à la conversion. Le Seigneur est extrêmement bon, mais il dit à la femme, parce qu'on me dit souvent, oui, le Seigneur il pardonnait tout. Ah non, non, il donnait la foi à tout le monde et puis, non, va et ne pêche plus. Va, ta foi t'a sauvé, va mais ne pêche plus. On est supposé ne plus pécher, faire l'effort de la grâce que nous obtenons, non pas parce que nous sommes parfaits les uns et les autres, mais parce qu'au moins nous avons la bonne volonté de suivre l'œuvre du Seigneur et nous le faisons avec notre meilleure partie de nous-mêmes, celle qui va dans le plexus, comme on nous l'a dit, et qui essaie de coïncider à la vérité que Dieu nous donne à travers ce qui nous apporte le message, les images parfois, le langage parfois, un papa et une maman qui nous ont éduqués, quelques curés qu'on a rencontrés un jour qui nous a mis sur la voie de la conversion, et les prophètes qui sont dans l'histoire, qui annoncent le monde, la vérité du Christ. Voilà. Merci beaucoup. Bonne fête de la Sainte Vierge. Remercions-la de nous réunir ici. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.